Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, Arnaud Laporte. Bonsoir à toutes et à tous. Un nouveau chapitre qui commence par un chiffre 49. C'est, nous apprend une brève de Libération, le nombre de statues en bronze qu'Athènes veut remplacer par des moulages pour mettre les originaux à l'abri des vandales, soit un quart des statues de la capitale grecque. Ces derniers temps, les cas de vandalisme et de vol des œuvres en métal pour en récupérer le cuivre se sont multipliés. La plupart des statues concernées sont en plein centre. C'est là que 5 bustes en bronze ornant la cour du centre culturel municipal avaient été volés le 25 mai. Ce fut la goutte qui a fait déborder le vase. Autre cible, les plaques d'égout en fonte qui ont tendance, elles aussi, à disparaître des trottoirs. La disparition est le maître mot de la revue de presse culturelle ce soir, à l'image de cette performance inédite qui se tiendra au musée Picasso samedi prochain, 25 juin à 16h, et dont nous informe une autre brève de Libération. L'artiste espagnol Miquel Barceló, exposé en ce moment au sous-sol, va créer une œuvre sur toile unique vouée à disparaître, accompagnée au piano par une improvisation de Pascal Comelade, le tout durant 30 minutes. Disparition encore signalée cette fois par une brève du Monde. Le musée national du Danemark à Copenhague a annoncé mardi 7 juin avoir supprimé les mots nègre et hottentote, le nom donné par les Hollandais à l'ethnie africaine Khoikhoi, des titres et descriptions de 14 œuvres parce qu'ils reflétaient la langue de l'époque coloniale. Ces termes avaient été utilisés par des experts du musée ou des historiens de l'art. Les titres donnés par les artistes, en revanche, eux, ne seront pas modifiés. Ces dernières années, on l'avait rapporté ici, le Rijksmuseum d'Amsterdam s'est lancé dans une entreprise similaire de chasse aux termes racistes dans les cartels des œuvres de son immense collection, en se gardant lui aussi d'effacer les titres donnés par les artistes. Sauf que parfois, ce sont les artistes eux-mêmes qui demandent la disparition là, carrément de leurs œuvres, comme le raconte Nathalie Eggs dans le Journal des Arts, à l'occasion de la conférence d'Herzliya, cet événement annuel qui aborde les enjeux internationaux et réunissait du 7 au 9 juin des personnalités politiques israéliennes et internationales. L'artiste Dani Caravan a déclaré avoir demandé à plusieurs reprises que l'œuvre in situ qu'il a conçue en 1966 pour la Knesset soit retirée, rapporte le quotidien Haaretz. L'artiste israélien a dit renouveler sa demande jusqu'à ce que le Parlement reflète l'esprit de la déclaration d'indépendance d'Israël de 1948. J'ai réalisé, explique-t-il, plusieurs commandes publiques qui appartiennent désormais au site, à leur paysage, à leur environnement et qui répondent à leur mission. Mais en ce qui concerne le mur que j'ai conçu pour la Knesset, j'en suis parfois honteux et j'ai demandé plusieurs fois à ce qu'il soit enlevé jusqu'à ce que le Parlement représente la déclaration d'indépendance, a-t-il déclaré. Dani Caravan, qui représentait Israël à la Biennale de Venise en 1976 et exposé à la Documenta 6 de Cassel en 1977, faisait notamment référence aux dernières mesures annoncées par Miri Regev, la ministre de la Culture et des Sports d'Israël. Mercredi 15 juin, Miri Regev a imposé aux structures culturelles qui reçoivent des subventions de l'État de fournir une déclaration mentionnant l'organisation ou non de manifestations en Cisjordanie, au Negev et en Galilée. Les organisations qui ne sont pas actives dans ces régions verront leurs subventions baisser de 33%, tandis que l'État accordera une aide supplémentaire de 10% aux structures actives sur ces territoires. Pour Dani Caravan, ces mesures menacent et pénalisent les associations qui refusent d'organiser des événements sur les territoires palestiniens occupés. Qu'est-ce si ce n'est une dictature, s'est-il exclamé. Ministre de la Culture depuis le 6 mai 2015, Miri Regev appartient à l'aile dure du Likoud, le parti de droite de Benjamin Netanyahou. En janvier, on en avait parlé ici, elle avait déjà suscité la controverse en présentant un projet de loi visant à couper les subventions aux institutions culturelles qui ne seraient pas « loyales » entre guillemets envers l'État d'Israël. De son côté, le chorégraphe Oad Naharin, dont le biopic Mr. Gaga est actuellement à l'affiche dans certaines salles de cinéma, a gardé son sang-froid. Miri Regev est arrivée et elle repartira. Le gouvernement est arrivé et il repartira. Et ceci n'est pas une opinion, c'est un fait. L'art ne dépend pas de l'argent. Nous créons sans dépendance à l'argent. Vous devez vous souvenir que ce n'est pas le gouvernement qui rend possible et qui rendra possible la personne que nous sommes, ainsi que la création. Chez le voisin palestinien, les politiques culturelles laissent parfois tout aussi perplexes. La cérémonie d'ouverture du premier musée palestinien, mercredi 18 mai, dans la ville universitaire de Bir Zeit, au nord de Ramallah, a suscité des réactions mitigées, raconte ainsi Nathalie Hamou dans Télérama. La raison, la nouvelle institution dédiée à l'histoire et à la culture palestinienne, qui devait ouvrir ses portes au public en juin, a été inaugurée vide. L'édifice de 3000 mètres carrés reste pour l'heure, et au moins jusqu'à l'automne, dépourvu de toute installation. Et ce, après la récente démission de son directeur, Jack Persekian, acteur majeur de l'art contemporain, dont l'exposition inaugurale Never Part n'était pas au goût des initiateurs du projet. Nul ne conteste la portée symbolique du vernissage en présence du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Porté depuis 1997 par l'ONG Tawan, le projet a été financé à hauteur de 30 millions de dollars par des donateurs palestiniens. L'existence même de ce musée équivaut, comme l'a rappelé son président Omar Al-Khattan, à une déclaration d'indépendance culturelle. Et puis l'avantage des musées sans œuvre, c'est qu'elles ne risquent pas de disparaître.